Quartier Fiction, une série de podcasts proposés par la compagnie Asvray. Demain, La Courneuve. En mars 2024, nous avons travaillé avec la classe de 3e 6 du collège Raymond Poincaré à La Courneuve. Les élèves ont fait une visite urbaine de leur quartier avec Michael Petitjean. Il et elle ont parlé de leur chemin d'école et de leur ville hier, aujourd'hui et demain. Elle et il ont raconté ou imaginé les trajectoires qui ont mené leur famille en France et en Seine-Saint-Denis. Et surtout, il et elle ont fait parler les arbres, les bancs et les murs. Un projet mené en collaboration avec l'équipe du Centre culturel Oudremont et les enseignants du Collège Poincaré, Clarisse Lefort, Jean-Baptiste Perrin et Bertrand Perret.
Rue de Métallos, La Tour.
Béatrice S.
Jean Valbon.
Avenue de Victor Hugo.
Avenue de la République.
Rue de la Chine.
Rue Rosa Parks.
Prims Hôtel.
Rue Paul-Longe Saint-Just.
Raymond Poincaré.
Hôtel de Ville.
Centre de santé Salvatore Darwish.
Mairie de la Mécanique.
C'est une ville auquel on peut ressentir un attachement très rapidement.
Avenue Gabriel Péri.
Il y a des villes où les choses roulent.
École maternelle Paul.
Centre de santé.
On va dire où elles ronronnent. Il y a des projets qui peuvent mettre un coup de stress, etc. Mais ici, il y a une espèce de... C'est peut-être pas une urgence permanente, mais il y a une espèce de gouffre un peu à combler, de tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut avancer. Comment est-ce qu'on propose une histoire à partir de ça, que ce soit une histoire avec un grand H, mais qui soit le récit qu'on peut en tirer et qui va être
Raymond Poincaré,
ici Jacques Brel,
pour l'enfant.
Le 4000 Sud-Nord,
rue de Chevalier de la Barre,
la guerre de la Courneuve.
Vient le jour où je dois déménager. Nous sommes dans la voiture vers la campagne, direction notre nouvelle maison située à La Courneuve. Intrigué, je demande au propriétaire quelle est l'histoire de cette maison et qui l'a habitée auparavant. Le propriétaire explique qu'il s'agissait d'une famille composée d'un couple et de 3 enfants. Ils ont vécu ici pendant 8 ans, mais malheureusement, un enfant a perdu la vie avec le père dans un accident de voiture. Ils ont donc décidé de quitter cette maison. L'histoire nous a choqués, mais on n'a pas prêté attention. Nous emménageons alors en cherchant nos repères pendant les 3 premiers jours. C'était très positif, on se sentait bien, mais dès le 4e jour, tout change. Je ressens d'étranges sensations lorsque je m'approche de ce fameux mur. J'ai donc tapoté comme si c'était un djembé. Aussitôt, j'entends des voix, celle d'un vieil homme et celle d'une petite fille. Je me suis demandé si j'étais folle. Je m'approche alors pour voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose, mais rien à l'horizon. J'ai donc décidé d'aller rejoindre ma famille, pour un peu oublier ce qui venait de se passer. On s'est dit qu'on allait faire les courses pour pouvoir remplir le frigo. On en a profité pour se poser un peu au soleil. Nous sommes rentrés vers 22h et avons rangé nos courses qu'on avait fait quelques heures plus tôt. En passant devant ce mur, je le fixe pendant si longtemps que j'en ai mal aux yeux. Puis arrive l'heure de dormir. Je me dirige vers ma chambre où se trouvait ce fameux mur que je regardais étrangement. Pendant mon sommeil, j'ai soudainement ouvert les yeux en sursaut. J'ai entendu des bruits étranges venant de ce mur. Ce mur bizarre, avec des couleurs effrayantes et des voix étrangères. Je me suis approché du mur mystère pour essayer d'en savoir plus. J'ai posé ma main sur le mur, puis une énergie étrange traversa mon corps. Mon corps frissonnait. Des images étranges apparaissaient devant mes yeux. Le mur était en train de me montrer des scènes de moi dans une voiture avec mes parents. Mon cerveau bug. Je suis choquée à la fois et impatiente de voir la suite. Je continue de regarder jusqu'à ce que je vois la voiture tourner à 360 degrés. D'un coup, les images disparaissent. Je cours dans la chambre de mes parents. « Maman, papa, c'est vrai que quand j'étais petite, on a fait un accident de voiture ?» Ils me disent « Va dormir, il est tard. » Je me dirige vers ma chambre, je monte sur mon lit en fixant le mur jusqu'à m'endormir. Le matin, je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que les murs ont gardé des secrets beaucoup plus grands que ce que je pouvais imaginer. Si j'avais pas déménagé, ni rencontré ce mur, j'aurais jamais su que, étant petite, j'ai survécu à un accident de voiture. Ce mur m'a dévoilé un secret que j'aurais peut-être jamais su de ma vie.
La mairie.
Pharmacie 4000 Sud.
Le cimetière.
Alishan.
Parc de la Courneuve.
École Anatole France.
Paris de la Mairie.
Axo-Maurice Lachâtre.
Coccinelle
Avenue. Église Saint-Yves.
Médiathèque Aimé César.
École Henri Vallon.
Centre sportif
McDo Drancy.
Titanium.
Je suis en cours.
Hôpital de la
Je m'ennuie et je dors.
Collège Paul-Dier.
C'est là que j'entends des voix qui m'appellent, mais personne ne me parle.
Je cherche d'où ça vient et je comprends que c'est ma table qui me parle. Et elle me dit que mon grand frère travaille beaucoup plus que moi. J'ai pris un coup, mais c'était vrai. Il me disait...
Fais plus d'efforts, reste pas planté à la rien faire. Et donne-toi pour aller en général.
Mais j'ai bloqué. Et puis il me disait, demande à ton frère de t'aider. Au final, j'en avais bien besoin. Et puis le jour où j'avais un contrôle, il me rappelle.
J'étais quelqu'un de distrait et travailleur. Mes résultats étaient mauvais. On me répétait toujours que j'avais des problèmes d'orthographe, mais que j'avais du talent de d'autres matières. Mais j'étais flemmard à en mourir et énervé quand je rate quelque chose.
Il faisait des efforts et il passait du temps à essayer de s'améliorer. J'étais le contraire de lui. Extrêmement vite, je me remis en question. Il n'avait pas tort. J'aurais pu l'écouter un peu plus. Ça aurait pu changer ma vie.
Je sors de chez moi avec mon vélo en route du parc de la Courneuve, Georges Valbon. Aujourd'hui, il faisait chaud et c'est le printemps et les fleurs tombent. Il y avait un arbre à fleurs roses. Je suis épuisée et je vais me poser sous l'ombre de cet arbre. Près de moi, un livre illustré. J'ai ouvert le livre et d'un coup, j'entends une voix. Je me tourne et personne. La voix me parle.
Eh ben, ça fait 20 ans qu'on ne m'a pas ouvert.
Je me suis retournée de stupéfaction. Personne n'était là. Puis, la voix retentit.
Ta mère était une amie proche à moi.
C'est là que j'ai compris que le livre me parlait. Je lui répondis inquiète. Comment tu connais ma mère ? Elle me répondit.
Je la connais bien avant toi. Je me souviens d'une petite fille brune. Elle travaillait à l'école énormément. Elle sortait de temps en temps avec son petit frère pour aller à la bibliothèque. Elle adorait les livres. Je la voyais tous les mercredis après-midi venir voir les documentalistes lire des livres. De plus, j'ai des couleurs que les enfants et adultes me convoitaient.
Mais tu parles de quoi au juste ?
J'en venais à cette histoire. Ta mère voulait devenir docteur. Je suis un livre d'anatomie pour enfants. Eh oui, ta mère m'avait emprunté jusqu'à ses 18 ans. Et je ne l'ai plus revue pendant 12 ans. 12 ans se sont écoulés et je revis mon amie. Ta mère avait 2 enfants. Elle était là, face à moi, et rechoisie avec nostalgie. On allait au parc où ta mère me montra à ta sœur et à toi. Tu me pris et allas près d'un arbre pour jouer. Puis, tu m'oublias et personne ne m'avait retrouvée jusqu'à présent.
Étonnée, je lui répondis. Est-ce moi qui t'ai oublié ici ?
Eh oui, mon enfant. Tous les livres ont un pouvoir magique. Le pouvoir de donner une nouvelle vision du monde à ses lecteurs et la magie de l'illusion. Et de choisir ce qui est une arme secrète. Il est grand temps que tu me remettes à ma vieille amie.
J'ai pris le livre, gêné, et le redonnais à ma mère qui avait dû payer une indemnité pour la perte du livre à la bibliothèque. Heureuse du retour de son livre préféré, elle ne le relâcha plus. Et j'attendais que le livre me reparle pour connaître la réponse d'une arme secrète.
La Courneuve, c'était.
J'entends le général de Gaulle à la radio. Il dit qu'on ne doit pas se laisser faire et rentrer dans la résistance.
Je vois des Français mobilisés par les Allemands pour faire de l'agriculture dans les champs de la Courneuve.
J'entends des mamans crier sur des enfants qui piétinent sur des pommes de terre.
Je vois les pommes de terre.
J'entends les Courneuviens qui résistent.
J'entends les sifflements des balles de carabine.
J'entends les femmes chanter.
Je vois des gens prier.
Je vois un homme émietter un reste de pain pour son pigeon.
Sac. En rentrant, nous déposions nos sacs. Disons bonjour à nos parents avant de vaquer à nos activités habituelles. Il était maintenant minuit et nous ne pouvons pas dormir. Je me rappelais du coffre pris au parc. En l'ouvrant, je remarquais 2 bracelets et 1 collier. Le nom sur le collier était le même que sur la pierre. Lorsque je levais la tête, je remarquais que je n'étais plus dans ma chambre. Je vis 2 filles, une qui avait à peu près mon âge et une l'âge de ma sœur. J'entendis une voix et lorsque je me retournais, je vis le chat noir. Il avança vers moi et lorsqu'il posa sa tête sur ma cuisse, je vis des souvenirs de 2 filles devant moi. Les lieux me semblaient similaires. Lorsque j'ouvris mes yeux, j'étais de retour dans ma chambre.
Je viens, comme tous les mercredis, de déposer ma sœur au gymnase Béatrice S. Je n'ai pas très envie de rentrer chez moi, alors je décide de marcher pour faire passer le temps. Quand j'arrive à cet endroit où ces bancs bleus me semblent familiers, tellement familiers que j'ai l'impression qu'ils me demandent de venir vers eux. Alors je m'assois. Dès que le contact de ma main s'oppose sur ce bon bleu et froid, j'entends une petite voix qui me murmure.
Je suis ravie que tu viennes me voir.
Cela m'étonne. Je veux dire non. Je ne suis pas étonnée qu'un bon me parle, mais je suis étonnée car je n'ai pas le souvenir d'être venue ici auparavant. Alors, je lui réponds que je ne suis jamais venue ici.
Mais si, tu es déjà venue ici.
Intriguée, je lève le regard autour de moi pour observer ce qui m'entoure, car je m'étais concentrée que sur ces bancs bleus sans prêter attention au reste. Et là, je vois cette araignée avec qui j'ai passé tant de bons moments. En voyant cette araignée, je fis immédiatement le lien avec ce banc bleu où ma mère s'asseyait en me surveillant. Et là, ça fait tic dans ma tête. Je revois ma mère à 18 ans qui venait de se marier avec mon père et vient d'arriver en France. Elle appréhendait cette installation, ce pays qui lui semblait tellement différent du Maroc. Elle arrive ici, à La Courneuve, et la première chose qu'elle fait, c'est de venir dans ce parc et de s'asseoir sur ce banc. Elle était là, toute seule, à repenser au début de sa vie, tous ces moments de joie et de tristesse. Et c'est à ce moment que je compris que ce fameux banc bleu avait écouté ma mère quand elle repensait à sa vie. J'ai enfin compris pourquoi on venait autant ici, mais aujourd'hui, je me pose cette question. Pourquoi ne vient-on plus ici, sachant que ce banc avait une importance pour ma mère? Je rentre chez moi pour l'interroger à ce sujet. Avant de m'en aller, je salue ce banc qui m'a fait comprendre plein de choses. Je le remercie et il me répond.
J'espère que maintenant, vous viendrez me rendre visite plus souvent.
Je souris et je lui promets. Je sors de ce parc avec un sentiment de joie et de nostalgie. La Courneuve, c'est...
Une ville où j'ai grandi.
Une ville où je vis.
Une ville où j'ai vécu.
La ville du bonheur.
4000 logements.
Une ville avec plein d'événements.
Une ville morte.
Une ville avec plein d'histoires.
C'est un quartier dans lequel y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent depuis 50 ans, 60 ans. Et c'est un lieu qui est hyper intéressant, qui est plein d'histoires, qui sont vos histoires, mais aussi les histoires d'autres qui se rencontrent ici. Et ces histoires, elles sont tout aussi intéressantes que les histoires de gens qui habitent dans d'autres quartiers, dans d'autres villes. Le Mail. Le Mail, c'est la dernière barre des 4000 qui a cette forme très longue, qui est très caractéristique. La singularité des bâtiments des 4000, c'était leur finesse. Quand on voit le Mail comme ça, il est extrêmement massif. Quand on le voit de face, c'est un bâtiment qui est d'une très grande longueur. Mais quand on le prend sur la tranche, il est très fin parce que tous les appartements sont traversants. Et le Mail, il va être démoli maintenant d'ici 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une des dernières traces visibles qui va disparaître de l'histoire des 4000 dans ces bâtiments les plus
importants. J'ai 14 ans et j'habite à Corbeil-Essonne et de la Courneuve. Ma mère est coiffeuse et c'est un métier dans lequel j'aimerais me lancer. J'ai déjà commencé à coiffer, mais c'était un peu la S. J'ai coiffé dans le bâtiment avec le matériel de débutant. Du coup, ma mère m'avait donné 200 euros pour que j'aille acheter du matériel chez un grossiste. J'étais en route dans le T1 pour la Courneuve 8 mai 1945, ou 8 mai tout court. J'ai descendu et j'allais dans le métro. Arrivé, j'ai senti une odeur familière, l'odeur de ma mère. Un parfum entre le lotus et le coquelicot. Dans le métro, je m'assoupis, puis me réveillai par un bruit d'oreille et le cri d'un toxico qui a dressé le jaune dans le métro. Et là, je vois une silhouette, celle de ma mère qui sortait du métro. Le son des rails me dissuade des sorties. Je l'ai écouté et sorti. 5 minutes plus tard, le voix de la SNCF dit « Je vous prie des sorties de la gare. » Un train métro était en face. Je m'appressais des sorties. J'étais à Château de Houx. Je pris mon bus et j'arrivais chez le grossiste. J'ai acheté des pinces, une tondeuse de coupe, une tondeuse de finition et une cire. J'ai ressenti une odeur, celle de ma mère, et je la vis dans le magasin.
Tout a commencé quand j'avais 10 ans. J'étais petit, donc je sortais avec mes cousins et mon frère. C'était pendant l'été vers 20h. Mes cousins et moi, ainsi que mon frère, décidons de sortir à Verlaine. Il y avait beaucoup de monde, et c'était bien. Les heures passèrent, et il était maintenant 23h30. Nous étions encore dehors, en train de discuter sur des bancs, quand tout à coup, un bruit retentit dans le quartier. J'étais horrifié, terrorisé par ce bruit. Nous nous levons et commençons à regarder autour de nous, et une mélodie se mit en marche. Nous nous sommes rapprochés de cette douce mélodie, et ça nous a amenés dans un espace où il n'y avait que des arbres. Mes cousins, mon frère et moi étions étonnés. Tout le monde avait peur. Mon frère décida de rentrer car ça faisait vraiment peur. Moi, je ne voulais pas partir. J'étais intrigué et je voulais savoir d'où provenait ce bruit. Mon frère me dit « Rejoins-nous, nous sommes sur les bancs ». Je lui ai répondu « D'accord, j'arrive ». Je m'assis à côté d'un arbre, au cas où le bruit retentirait à nouveau. 20 minutes passèrent, mais toujours rien. Donc, je me décidai à partir et au moment où je me redressais, le bruit retentit à nouveau. J'ai couru dans les broussailles et j'arrivais dans un sentier où il n'y avait que des arbres en forme de cercle. Et au milieu des arbres, un arbre gigantesque était là devant moi. Je le regardais de haut en bas, j'étais surpris. Quand tout à coup, deux yeux et une bouche apparurent sur l'arbre. Je n'avais pas les mots. À ce moment-là, j'avais toutes les émotions du monde. En restant comme ça pendant une heure, mon cousin me rejoignit pour voir comment j'allais. En le voyant, je courus vers lui pour savoir s'il voyait la même chose. Il me dit « Il ne voit rien ». Je lui répétais la même chose et il me répondit la même chose « Non ». En pensant qu'il me faisait une blague, je lui montrai l'emplacement des yeux et de la bouche. Il me dit « Non, je ne vois rien, rentrons maintenant ». Pendant ce temps, l'arbre cria de toutes ses forces quand je mettais mes mains dans ses yeux et sa bouche. Et l'arbre dit « Arrête de mettre tes mains dans mes yeux et ma bouche ». Et j'arrêtais immédiatement car j'avais peur de cet arbre et l'arbre et moi avons commencé à parler. Avant de commencer la discussion, il me dit « Je te connais, c'est pour ça que cette mélodie t'est parvenue ». Je lui répondis « Comment est-ce que tu me connais ?» Il me dit « J'ai connu ton ancien grand-père ». Je lui ai répondu « Quel grand-père ?» Il me dit « Malheureusement, il est mort, mais il m'a dit de te confier ceci ». Et l'arbre fit surgir une carabine de la guerre. J'étais choqué et je me posais plein de questions. Comment cela ? Comment ceci ? Mais au moment où j'ouvris ma bouche, ses yeux et sa bouche n'étaient plus là. Je n'ai jamais cessé de penser à ça et je me dis que j'ai beaucoup de chance de parler avec un arbre.
Pour ma génération, la Courneuve, c'est un emblème. Avec d'autres villes, je pense à Grigny par exemple, Vénissieux, Vaux-en-Velin, c'est fait partie des espèces d'emblèmes du mal-être des banlieues. Alors que bah, pour la Courneuve, ce qui est assez étonnant quand on arrive vraiment sur place, c'est que d'une part c'est une ville qui n'est pas qu'une ville de grand ensemble, c'est une moitié grosso modo de la démographie de la ville, et puis c'est une ville qui est faite toute petite, totalement à taille humaine, c'est pas du tout le quartier inhumain de la ville contemporaine, bien au contraire, il y a des liens sociaux qui sont très forts. C'est une ville qui fonctionne beaucoup à l'affect, qui fonctionne beaucoup dans la relation individuelle. Donc c'est quelque chose qui était pour moi très intéressant en arrivant ici. La manière dont on parle de soi, de choisir les bons mots, de choisir les bonnes expressions, d'être attentif aux petits détails, je pense que ça c'est quelque chose qui est pas évident. Mais d'être en capacité de se raconter différemment, déjà c'est un sujet, c'est-à-dire aussi avoir les données qui permettent de le faire. Quand on parle d'histoire et de géographie, à un moment, si on n'a que les stéréotypes qui sont accumulés d'année en année, on finit par les recycler, parce que tout simplement on n'a pas d'autres éléments de langage à proposer. Donc il y a un travail là-dessus, qui est aussi un travail de la connaissance.
Un soir, après avoir mangé au restaurant avec toute ma famille, on a pris le bus pour rentrer chez nous. Il était 20h54, le bus est enfin arrivé et on est monté. Il n'y avait que nous dans le bus. Quand on est arrivé à la station, mes parents et mes sœurs sont descendus. Et quand j'allais descendre, la porte s'est fermée. J'ai dit au conducteur « La porte s'il vous plaît monsieur !» Il ne m'a pas entendu et a redémarré. À ce moment, je stresse et j'ai peur. C'est la nuit, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais ? Il arrête d'un coup et la porte s'ouvre. Je descends vite et je commence à courir. Je suis confuse, mais bon. La rue était vide avec peu de lumière. Il n'y a aucun bruit, aucune voiture, personne. Bien sûr que le soir où je ne ramène pas mon téléphone, cela se passe. Je marche un peu et j'ai failli tomber. Je regarde par terre et je vois un signe. Lonely ? Je l'ignore et quand je recommence à marcher, j'entends une voix de chat qui fait miaou, miaou. Il est orange et blanc, il est trop mignon. Et moi, comme une bête, je le suis. Et il me ramène jusqu'à un mur. Je pensais que c'était la maison à lui. Je le laisse et je pars. Mais le chat miaule encore. Cette fois-ci, bizarrement. Je me tourne et le mur que je viens de voir, avec des toiles d'araignée et de la poussière, devient une petite maison en un clin d'œil. Je fais « Mais waouh !» Le chat a disparu. Je suis étonnée et surprise. Je me questionne « Suis-je en train de rêver ?» Mais non, c'est la réalité. J'étais curieuse et je suis rentrée. Et encore, j'étais choquée. Parce que dès que je rentre, une lumière flash sur mon visage. Et quand je vais un peu mieux, après avoir été presque aveugle, je marche et je remarque que la maison et son décor ressemblent à ma maison en Adopt-Me que j'ai créée quand j'étais petite. Je suis trop contente et j'ai oublié que mes parents m'attendent chez moi. Oups! Quand j'étais en train d'explorer la maison, soudain, toutes les lumières s'éteignent et la télévision s'est allumée. Elle commence à me parler et me dit
« Regarde, ça, tu vas repenser à ta vie. »
J'ouvre grand la bouche en me rappelant ce que je suis en train d'entendre. Une télé qui parle? Une vidéo commence à jouer sur la télévision qui montre des vidéos de moi quand j'étais en Angleterre, contente avec mes cousins, cousines et ma famille, mes chats, etc. Des larmes sortent de mes yeux car ces moments me manquent et je sais que cela est un signe qui me dit d'aller visiter l'Angleterre pour encore faire de beaux souvenirs avec les personnes que j'aime. D'un coup, toutes les portes de la maison commencent à s'ouvrir et un par un, les membres de ma famille sortent et chantent.
Happy birthday to you.
Avec un gros gâteau, tout le monde jette des ballons sur moi et j'entends ça.
Sarah, réveille-toi.
Je me réveille et je réalise que c'était un rêve. D'un coup, je me lève en étant fâchée. C'est même pas mon anniversaire. Je marche jusqu'à la salle de bain et la plante sur mon bureau me dit.
T'es sûre que c'était un rêve?
Tout commença un week-end où il faisait beau. Mes copines voulaient sortir pour prendre l'air, alors on est allé se poser à Verlaine. Arrivé à Verlaine, il était 14h, il n'y avait personne dehors et j'attendais mes copines assises sur un banc à côté de la boulangerie. J'étais assise sur ce banc marron un peu avec un vieux bois, puis ma mère m'appelle. Je lui réponds, on parle quelques minutes avant de raccrocher. En raccrochant, j'entends une voix. Je regarde autour de moi tout apeurée en cherchant qui me parle. Il n'y a personne. Je commence à me dire que c'était seulement mon imagination et peut-être la chaleur qui tape sur ma tête. Je réentends la même voix et là, elle me dit « Hey !» Je regarde vraiment partout, toujours personne. 20 minutes devaient être passées. J'attends encore mes copines, mais là, je sursaute. La voix réapparaît et je me rends compte que c'est le banc qui me parle. Je me lève et je m'affole. La panique, la peur, tout cela m'a troublée. Je regarde le banc qui me dit de me réasseoir et de l'écouter. Je n'y crois pas mes oreilles, un banc qui parle. J'ai pris du temps à accepter le fait qu'un banc me parle. Je me croyais dans un rêve. Puis le banc me dit qu'il me connaît. Moi, troublée, je lui demande comment il me connaît. Il me dit qu'il connaît ma mère et que je lui ressemble énormément. Je lui demande comment il la connaît. Il m'explique, il me parle de l'époque où ma mère venait d'avoir mes deux sœurs et que quand elle sortait, elle venait sur ce banc avec ses copines et que mes sœurs jouaient ici. Avant, tout n'était pas le Verlaine de maintenant. Le banc me parle et me raconte tout. Que ma mère sortait tous les jours quand il faisait beau et qu'elle s'asseyait tous les jours sur ce banc. Il m'a aussi raconté le jour où il a vu ma mère arriver énervée parce qu'elle venait de voir ma sœur assise sur ce banc avec un garçon. Ce jour-là, elle a frappé ma sœur devant tout le monde. Quand ce banc me parlait, je me suis rendu compte que depuis que ma mère a déménagé, elle ne sort plus trop. Du coup, j'étais très heureuse. J'ai remercié le banc en lui demandant pourquoi il m'avait raconté ça. Il m'a dit que c'était parce qu'il m'avait entendu lui parler et qu'il voulait que je connaisse l'ancienne Soumia que je n'ai pas connue comme je n'étais pas née. Puis mes copines arrivent et le banc ne dit plus rien.
La Courneuve, c'est une ville. 93-120. Ma ville. Une place avec beaucoup de mémoire. Où j'habite. Notre maison. Un endroit important pour plusieurs personnes. Une cité avec beaucoup d'ambiance à travers les différents quartiers. Un lieu admiratif, aimable avec beaucoup de vieux, des jeunes, de la verdure, beau avec beaucoup d'espaces verts et de loisirs. Chez moi. Chez moi car j'habite ici depuis 2015.
Je me promenais dans les rues car je n'avais pas cours. Sans m'en rendre compte, je me retrouve devant une petite balançoire, dans un parc où je venais quelquefois avec des amis. J'ai grimpé sur la colline. La douce brise caressa mon visage, m'adossant contre l'arbre et regardant l'espace qui servait de parking, qui avait été remplacé par de grands immeubles. Et je me suis mise à me poser plein de questions. Soudain, j'entendis une faible voix me murmurer à l'oreille. Je tourne la tête et j'observe de tous les côtés. qui pouvait bien parler ? Je ferme les yeux pour me concentrer et je dis « Esprit, es-tu là ?» Et à ma grande surprise, l'arbre me fit part de sa présence. En frôlant ma joue, curieuse et effrayée, je voulais lui poser mes questions. Mais sans même avoir ouvert la bouche, celui-ci me répondit. Je fus prise de frissons. Il me raconta ce qu'il y avait avant que les grands bâtiments cachent l'horizon. Il me fit part qu'il connaissait mes parents. Dans un récit bien détaillé, il me raconta pourquoi je vivais ici avec ma famille. Lorsque ma mère était enceinte de ma sœur, elle venait souvent au centre de santé, qui avait été avant dans les 4000. Un jour, alors qu'elle venait pour un autre rendez-vous, accompagnée de mon père, la dame qui était à l'accueil leur expliqua que l'adresse du centre de santé avait été changée et que maintenant, il se trouvait dans l'avenue Victor Hugo. Tandis que mes parents se rendaient à la nouvelle adresse, ils tombèrent sur une construction. C'était un parking qui s'est remplacé par 4 bâtiments. Mes parents rentrèrent à l'intérieur pour obtenir plus d'informations. Et après avoir réfléchi, ils décident d'acheter un appartement ici. Ils se dirent que ça serait beaucoup mieux pour nous. À la fin de son récit, l'arbre tomba raide mort et s'est desséché.
Le cimetière.
Alichal.
Paris de la Courneuve.
Paris de la Mairie.
Le parc des sports Marville.
Coccinelle à Verdelle.
Médiathèque Aimé César.
Centre sportif Antoine Magne.
Raymond Poincaré.
La Banque de France.
Donc cette ville, en gros, il faut imaginer qu'elle fait 600 habitants en 1850, elle en fait 2000 en 1900, elle en fait 20 000 en 1950, elle en fait 43 000 en 1960. Donc il y a une espèce de une croissance qu'on dit exponentielle, c'est-à-dire que ça va très 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 vite, et d'un coup il y a la ville qui se construit, qui se construit, qui se construit. Et les 4000, bah, c'est un morceau de cette histoire-là, mais très raccourci. Il y a plus d'emplois sur le territoire de la Courneuve que d'habitants. Les emplois dont je parlais, hein, ceux de la métallurgie. Donc à ce moment-là, en 1960, c'est pas un problème le travail. Justement, c'est pour ça qu'on construit les 4000. Et donc les 4000, ça va être tout ça. C'est pas seulement des logements qui vont être construits, c'est aussi bah, une ville qu'il faut inventer. Des supermarchés, effectivement, des commerces, etc. Et ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que les 4000, ça va être une espèce de modèle pendant quelques années où ils vont dire on va pas faire comme ailleurs, on va construire une vraie ville dans la ville. On passe de un peu d'une utopie, d'un rêve, d'une ville qui va fonctionner avec un ensemble de commerces, des nouveaux habitants, une dynamique qui se met en place, à une réalité historique qui est un quartier qui va avoir beaucoup de difficultés. C'est qu'il y a une grande crise économique en France. Vers le début des années 70, en 73, il y a un grand coup d'arrêt. C'est vraiment la fin des possibles. Hein. C'est le moment où il va y avoir des grands plans de licenciement, et particulièrement à la Courneuve. Parce que la métallurgie, le travail du métal, c'est vraiment un des secteurs qui va être touché très durement. Ici, il y a des milliers d'emplois qui disparaissent. Et du coup, ben, pour les gens qui habitent ici, ça va être vraiment quelque chose de difficile.
Je marchais pour m'acheter à manger, quand soudain, j'entends une voix murmurer à côté de moi. Au début, je me tournais partout pour voir si je n'étais pas le seul, et personne n'entendait. Donc j'y ai cru, j'ai écouté ce qu'il disait. La table disait qu'après tout le travail que le patron avait fait, c'était enfin tout le temps rempli, mais que maintenant le patron il était fatigué. Ça m'a rappelé moi en quatrième, qui venais tous les jours à l'école à 8h pour travailler toute la journée. Où on est fatigué, où certains professeurs sont fatigants. En plus, on commençait à 8h tous les jours en quatrième. Certains professeurs sont stricts pour rien et deviennent méchants. Mais il y a des élèves gentils et quelques professeurs sympas.
Alors que je me baladais tranquillement, mes yeux se sont posés sur un vieux banc en bois, situé dans un coin d'un parc. Je me suis assis sur le banc, sentant le bois sous mes doigts. Tout à coup, j'ai ressenti une présence comme si le banc lui-même voulait me communiquer quelque chose. J'ai donc fermé les yeux et j'ai écouté attentivement. Les souvenirs de mon enfance ont commencé à revenir. Je me suis revu, assis sur un banc similaire, entouré de mes amis, riant et partageant des histoires. Ce banc était le lieu de rendez-vous où nous passions des heures à discuter, à rêver et créer des souvenirs inoubliables. Tout en étant assis sur ce banc, je me suis rendu compte de l'importance des amitiés et des moments partagés. Ce banc symbolisait pour moi quelque chose d'inoubliable. Je me suis senti submergé par une vague de gratitude et de bonheur. C'était comme si le banc me rappelait de chérir ces moments précieux et de continuer à créer de nouvelles histoires avec les personnes chères.
Cet après-midi, avant de reprendre les cours avec ma copine, on décide d'acheter des chips, des bonbons et du jus, puis de se poser sur un banc et discuter. Nous sommes donc allés dans un parc et en m'asseyant sur le banc, je commence à raconter ma situation familiale sur le fait que mon père nous ait abandonnés. Puis d'un coup, le banc se mit à souffler et parler. Je fus surprise, je regarde autour de moi, mais personne n'était là. Je continue donc de parler à ma copine et je réentends le bruit, le banc parlait. Je demandais donc à ma copine si elle entendait, elle me répondit non. Je lui demandais de se taire un instant, puis le banc se livra à moi. C'était mon père, il me racontait toute son histoire avec ma mère. Il me dit qu'il ne nous a jamais abandonnés, qu'il pense toujours à nous et que c'est ma mère qui nous a demandé de sortir de sa propre maison. En effet, ma mère ne m'a vraiment jamais raconté pourquoi mon père n'était plus à la maison.
La vie dans ces grands ensembles, quand on parle des 4000, elle est rythmée aussi par les attachements affectifs qu'on peut avoir, familiaux. Et donc évidemment, quand on est touché par une démolition qui amène à un relogement, une bonne partie des gens en fait, veulent conserver leur environnement. D'environnement affectif, social, amical, il y a un très fort attachement au quartier. Quand il y a un relogement, les habitants, ils souhaitent rester. Ils souhaitent rester plus que dans la ville, ils souhaitent rester dans le quartier. La nostalgie, la mélancolie du bâtiment disparu concerne tout autant un bâtiment des 4000 logements qu'un immeuble haussmannien qui aurait disparu parce qu'il y aurait eu un incendie. Il y a cet attachement au bâtiment qui finalement, je pense, celui qui est l'attachement au foyer et puis aussi aux souvenirs d'enfance parce qu'ici on a aussi des populations qui... Il y a à la fois un fort turnover sur une partie de la population et puis il y a aussi une très forte permanence. Et donc il y a des gens qui ont vécu toute leur enfance, dont leurs parents sont arrivés très jeunes à La Courneuve. Et donc quand il y a un bâtiment qui disparaît, c'est la maison familiale qui disparaît.
La tour.
Rue de la Métarse.
Hôtel
et
des
Césaire.
Oui, Saint-Just.
Mairie de La Courneuve.
Prims Hôtel.
Centre de santé.
Gérard. Rosa Parks.
Le Mail.
Rue de la Chine.
Rue de la Convention.
Raymond Poincaré.
Lycée Jacques Brel.
Oui, pour l'enfant.
Je marche tranquillement au stade Jean-André, quand soudain je vois mon école primaire. Je décide de me rapprocher et je suis devenu heureux en la voyant. Puis je décide de partir. Le mur me dit « Toi qui es au collège, te souviens-tu vraiment de ce que tu étais avant et comment tu es arrivé ici ?» Je suis surpris et étonné car cette voix me dit quelque chose, comme si je la connaissais. Je l'ai déjà entendue. C'est une certitude. Je me retourne, mais je vois personne. Le mur me dit « C'est moi qui te parle. Je vais te raconter ton histoire. » On est en 2014, quand tu es arrivé du Sri Lanka. Tu avais que 6 ans et tu as fait toute ton année de primaire ici. Tu ne savais pas parler français. Ton premier jour était le 1er janvier 2014. Tu étais timide et tu ne savais pas parler français, même pour dire bonjour. Tu es venu avec tes parents et la directrice t'a pris avec elle et t'a fait rentrer. À ce moment-là, la directrice était une grande aide pour toi. Tu ne faisais confiance à personne sauf elle. Et puis elle t'a accompagné jusqu'à ta classe et t'a laissé. Arrivé en cours, tu avais des difficultés à parler français, comprendre ce que ta maîtresse disait, mais tu avais de la chance car un élève sri-lankais était dans ta classe. Tu n'avais pas beaucoup d'amis, tu étais allé en Ulysse par la suite à cause de tes difficultés à parler français. À la récré, tu as regardé que ce mur en ayant envie de rentrer. Tu as été triste et tu te méfiais des autres. Je me suis mis à pleurer quand j'ai entendu cela. Mon histoire était pour moi-même triste. Puis soudain, la porte du mur s'ouvre devant moi, comme si elle demandait d'entrer et de rendre visite. J'accepte de rentrer car j'ai tout de suite compris qu'il me parlait, car je ne suis plus venu de rendre visite. Mes souvenirs me reviennent.
Demain à La Courneuve, il y aura une université avec plein d'étrangers.
Demain à La Courneuve, il y aura des grandes entreprises.
Une ville de building.
Une ville dont parlent les gens.
Demain à La Courneuve, il y aura des bonnes conditions de vie.
Demain à La Courneuve, il y aura un beau centre commercial.
Demain à La Courneuve, il y aura un café avec des chiens, des chats, des lapins et des hérissons.
Demain, La Courneuve sera plus propre.
Demain, La Courneuve sera remplie de végétation.
Demain à La Courneuve, ça sera soit l'harmonie, soit la discorde.
Demain à La Courneuve, ça sera chez nous.